Je suis au téléphone avec Maude Chalvin, qui représente le projet Accompagnement Solidarité Colombie. Et tout le monde a reçu au mois d'octobre une lettre demandant notre appui pour une caravane humanitaire à cause des actions d'une compagnie canadienne en Colombie qui s'appelle Pacific Rubiales Energy.
Pacific Rubiales, c'est une pétrolière canadienne enregistrée à la Bourse de Toronto qui exploite 46 puits pétroliers, dont 40 sont situés en Colombie. Ces puits pétroliers les plus importants sont dans le département du Meta, dans la région qu'on appelle Campo Rubiales et Puerto Gaitán. Cette exploitation pétrolière représente près de 25 % de la production pétrolière nationale de Colombie. C'est donc un enjeu économique extrêmement important.
2018 millions US en profit en 2010 en
oui.
Colombie.
En effet, je vais vous parler spécifiquement des deux puits pétroliers que je viens de nommer, Campo Rubiales et Puerto Gaitán, parce que c'est là qu'il y a le plus gros conflit de travail et c'est pour ça qu'on a mobilisé des appuis pour la caravane humanitaire dont tu parlais. Donc, dans cette région, Pacific Rubiales, la pétrolière canadienne, n'engage pas directement ses ouvriers. Ils passent par des compagnies de sous-traitance, donc des espèces d'agences de placement. Ils embauchent entre 12 et 14 000 ouvriers colombiens pour travailler dans les puits de pétrole. Donc, c'est une très grande main-d'œuvre. Et cette main-d'œuvre est soumise à des contrats de travail de 28 jours. Donc, il n'y a aucune permanence en emploi. Les ouvriers travaillent 28 jours et retournent chez eux ensuite en attente de savoir s'ils vont avoir un nouveau contrat ou non. Ces 28 jours de travail, ils les font à coût de 18 heures de travail par jour. Ils sont donc obligés de dormir sur place dans des tentes très bancales. C'est un campement tout à fait insalubre où s'entassent des centaines et des centaines d'ouvriers sous des tentes, comme je disais, très bancales. Et ils reçoivent à peu près le quart du salaire minimum des autres ouvriers de l'industrie pétrolière en Colombie. Et bon, puisque ce sont pas des employés directs de Pacific Rubiales, mais des sous-contractés, ils ont pas le droit de se syndicaliser. Donc ça, c'est un peu ce qui va donner lieu au conflit de travail. Mais il faut également parler qu'il y a un conflit social très important parce que, puisque c'est une région pétrolière des plus importantes de Colombie, les communautés avoisinantes, qui sont des communautés paysannes et autochtones avec des conditions de pauvreté presque extrêmes, revendiquent depuis maintenant plusieurs années que les pétrolières, premièrement, une politique environnementale, donc ils dénoncent la contamination des eaux qui détériorent leurs terres arables où ils cultivent, mais également contamination de l'air qui va créer des graves problèmes respiratoires, des problèmes dermatologiques, surtout chez les enfants. Ils demandent également à la pétrolière de faire des investissements dans les infrastructures, de faire des investissements pour des services de santé, pour les ouvriers et pour les communautés, et bien sûr de décontaminer certains terrains pour que les communautés puissent continuer à cultiver. Et enfin, les communautés ainsi que les ouvriers revendiquent une politique locale d'embauche, d'une part, et une politique locale d'approvisionnement. Donc, tout ce qui sert à construire ou à faire la maintenance des installations pétrolières, les communautés demandent que ça soit acheté par Pacific Rubiales directement dans la région.
Ce que tu dis, Maude, on se demande si la révolution industrielle a eu lieu en Colombie. Parce que ce sont des conditions que Marx décriait à l'époque en Europe.
C'est pour ça que le Canada va signer un accord de libre-échange avec la Colombie, l'a déjà signé, et avec d'autres pays pour pouvoir continuer avec un bassin de main-d'œuvre complètement captif et avec des conditions, comme tu le dis, qui remontent à il y a 200 ans. C'est bien sûr une façon pour les entreprises de réduire énormément leurs coûts et de ne pas avoir à respecter les droits du travail et les droits syndicaux comme ils seraient plus obligés de le faire au Canada.
Et dans le rapport du projet Accompagnement Solidarité Colombie, oui, on lit quelque chose qui rappelle ce qui se passe, la situation en Moyen-Orient en ce moment, en Palestine, parce qu'il y a apparemment une difficulté de circulation des habitants de la région aussi.
Puis en fait, pour relater un peu historiquement, c'est que ça commence cet été, en juin, on a 5000 ouvriers, donc en sous-traitance, qui vont se déclarer en grève et en assemblée permanente et qui vont mobiliser les communautés alentour. En juillet, Pacific Rubiales, les gardes de sécurité privés de Pacific Rubiales, appuyés par des effectifs des forces armées militaires colombiennes et de la police nationale, vont attaquer l'assemblée des ouvriers des communautés à côté des champs pétroliers. Il va y avoir des tirs, il va y avoir des bombes aturdissantes qui vont être lancées par hélicoptère. Donc, on a des blessés, on a des gens disparus et en même temps, il va circuler des menaces de mort de la part d'un groupe paramilitaire de la région qui va cibler les syndicalistes. Parce qu'il faut dire que quand les ouvriers se mobilisent, ils vont aller chercher l'appui du grand syndicat national des ouvriers du pétrole, qui est la USO, Union Syndical Obrera, Union Syndicale Ouvrière, qui va venir sur le lieu du conflit de travail pour représenter les ouvriers. Il y a 5000 ouvriers qui vont s'affilier à la USO et qui vont demander à la USO d'entamer des négociations avec la pétrolière canadienne. Donc là, on arrive cet automne, au mois de septembre, les négociations commencent. Il faut mentionner que l'ambassade canadienne était présente lors des tables de négociation, ainsi que les autorités, tant au niveau départemental que national, les autorités colombiennes étaient présentes aux tables de négociation, comme Pacific Rubiales et le syndicat de la USO qui représentait les ouvriers en sous-traitance. Il y a eu une série d'accords qui sont sortis de ces tables de négociation le 30 septembre dernier et qui prévoyaient, entre autres, des augmentations salariales, des conditions d'hébergement et de transport de meilleure qualité pour les ouvriers, etc. Et bon, une politique, je nommerai pas tous les accords, mais dont une politique d'embauche et d'approvisionnement local, etc. Mais en même temps, la répression va continuer de la part de la police nationale et des gardes de sécurité privés de Pacific Rubiales. Et Pacific Rubiales va carrément ériger des barricades sur des routes publiques entre les champs pétroliers et les villages avoisinants. Mais concrètement, par exemple, les Autochtones, les membres des communautés autochtones, quand ils doivent retourner du village, par exemple, sont allés acheter ou vendre des produits au marché du village, ils doivent retourner dans leur communauté, ils doivent passer par les barricades de Pacific Rubiales où les gardes de sécurité vont souvent refuser de les laisser passer. Donc, la USO, le syndicat qui représente les ouvriers, va également dénoncer une violation de la souveraineté nationale par une entreprise étrangère puisqu'elle empêche la libre circulation des habitants sur leur territoire, sur une route publique. Donc, ça, c'est, comme tu disais, comme encore en Palestine ou quoi, c'est une autre partie du conflit. Face au non-respect des accords qui ont été obtenus en présence de l'ambassade canadienne, je le répète, la USO va appeler à une caravane humanitaire. Donc, c'est pour ça qu'ici, le projet Accompagnement Solidarité Colombie a contacté différents syndicats et organisations canadiennes pour envoyer un message clair d'appui à cette caravane humanitaire-là, demandant d'une part qu'il n'y ait pas une répression contre les gens qui participent à la caravane humanitaire, mais également que soient levées les barricades érigées de façon illégale par Pacific Rubiales pour empêcher l'accès des syndicats ouvriers mobilisés dans les installations pétrolières. Et la réponse a été très favorable, en fait. Il y a plus d'une vingtaine de syndicats majoritairement québécois, mais également au niveau national, qui ont appuyé une lettre conjointe d'appui à la caravane humanitaire qui a été envoyée à l'ambassade canadienne avec copie, bien sûr, aux autorités colombiennes concernées par ce conflit de travail et ce conflit social.
Est-ce que ça a eu un effet ou est-ce que l'ambassade continue de faire l'autruche?
En fait, on a reçu une réponse de l'ambassade, chose qui quand même déjà démontre que c'est un conflit important pour l'ambassade parce que vous n'êtes pas sans savoir que lorsque des ONG écrivent à une ambassade, habituellement, les demandes restent lettres mortes. Cette fois-ci, on a eu le droit à une réponse officielle du nom de l'ambassade, du nouvel ambassadeur canadien en Colombie, M. Tim Martin, qui nous disait que l'ambassade canadienne suivait de très près les troubles publics qui mettaient en danger, en quelques mots, les profits de la compagnie canadienne et que l'ambassade canadienne avait été présente lors des négociations et qu'elle faisait le suivi pour s'assurer que les accords allaient être mis en application. Est-ce que ces accords ont été mis en application? Eh bien, pas du tout. Je vais essayer d'expliquer brièvement espèce de mascarade un peu sournoise qu'a élaborée la compagnie pour détourner ces accords. Donc, deux, trois jours avant le départ de la caravane humanitaire qui était constituée par plusieurs organisations sociales, syndicales au niveau national et international et qui partait de Bogota, de la capitale de la Colombie pour se rendre jusqu'au lieu du conflit de travail, la compagnie Pacific Rubiales, la pétrolière canadienne, a sorti un communiqué en disant qu'elle avait signé un nouvel accord avec un nouveau syndicat. Ce syndicat-là, outre ses liens directs avec plusieurs membres de l'establishment, autant économique que politique en Colombie, ce syndicat-là représente 700 employés directs de Pacific Rubiales qui ne sont pas des ouvriers du pétrole, mais qui sont un personnel administratif. Donc, la Pacific Rubiales va annoncer à ses actionnaires et dans les grands médias colombiens qu'elle ne reconnaît plus la USO et qu'elle a négocié une augmentation salariale pour son personnel administratif. Quelques jours plus tard, Pacific Rubiales va même organiser une marche avec une couverture médiatique jamais vue en Colombie. Tous les grands médias étaient là. Qu'elle va dire que c'est une marche contre l'organisation terroriste qu'est la USO, donc le syndicat avec qui elle a fait un accord. Et puis, depuis ce temps-là, la répression a augmenté contre les syndicalistes, contre les ouvriers. Il y a plus de 5000 ouvriers syndiqués par la USO qui ont plus de contrat de travail. Et il y a des menaces paramilitaires et beaucoup de diffamation qui est faite dans les médias. Il faut voir que quand une entreprise canadienne traite d'organisation terroriste un syndicat en Colombie, concrètement, c'est donner carte blanche à des paramilitaires pour assassiner et faire disparaître ces syndicalistes-là. On sait que la Colombie, c'est le premier pays au monde en termes d'assassinat de syndicalistes. Donc, nous, en tant que PASC, Projet Accompagnement Solidarité Colombie, on tient directement responsable la pétrolière canadienne Pacific Rubiales Energy pour son attaque contre les syndicats, contre les syndicalistes dans la région.
L'USO terroriste. Quelque oui. chose, ça.
Ouf. Surtout dans un contexte comme la Colombie, où le terme de terroriste est vraiment une menace de mort directe. Ouais. Je voudrais seulement mentionner, avec les quelques secondes qui me restent, que Pacific Rubiales, c'est un conglomérat qui possède également la Grand Colombia Gold, qui est la compagnie minière la plus dénoncée en ce moment en Colombie. Au mois de septembre, un des opposants publics à cette compagnie a été assassiné deux jours après avoir parlé médiatiquement contre la Grand Colombia Gold. Ça, c'est dans la région de Caldas, en Colombie. Alors que dans la région de Nariño, il y a une autre exploitation qui est faite par la Grand Colombia Gold, possédée par la Pacific Rubiales. Il y a eu des attaques directes par des paramilitaires et des gardes de sécurité privés de la Grand Colombia Gold aux communautés paysannes et autochtones mobilisées contre une mine à ciel ouvert dans la région. Puis pour en savoir plus, vous tenir au courant ou donner des appuis, surtout de la part des organisations sociales et syndicales canadiennes, on vous invite à visiter notre site web. Le PASC a une campagne qui s'appelle « Ciblons les profiteurs canadiens de la guerre en Colombie ». Alors vous pouvez voir cette section de notre site web, vous allez avoir tous les détails sur les dénonciations qui sont faites contre les entreprises canadiennes en Colombie. Vous visitez le www.pasc.ca, www.pasc.ca.
Je ne sais pas qui nous a donné l'impression que l'époque des paramilitaires était révolue, mais là, il y a un exemple du contraire.
Ce qui a donné l'impression, c'est que le Canada a accepté de signer un accord de libre-échange avec la Colombie sous le mandat de la présidence d'Uribe, qui est reconnue mondialement comme étant un des créateurs et des financiateurs et alliés de la stratégie paramilitaire en Colombie. Quand Harper s'est rendu visiter Uribe pour le féliciter de son respect des droits humains, c'était la première fois en 8 ans de mandat d'Uribe qu'un autre premier ministre osait se rendre en Colombie pour commencer à négocier un accord de libre-échange. Ni les États-Unis, ni l'Union européenne, ni aucun autre pays aurait osé donner cet aval politique à un dictateur de la sorte, excusez-moi, un dictateur démocratique, mais qui manège en douce une stratégie paramilitaire qui, selon nous, est synonyme de terrorisme d'État contre les organisations sociales et syndicales en Colombie.